Il est 8h.
De la violence dans les rues de plusieurs villes des Pays-Bas pour la deuxième nuit consécutive après l'instauration d'un couvre-feu, vitrines brisées, magasins pillés, des dizaines d'arrestations. Nous rejoignons notre envoyé spécial à Rotterdam. En France, le confinement peut attendre, l'Élysée temporise. Pas de prise de parole du président cette semaine qui veut avoir les chiffres mesurant l'impact du couvre-feu. Les informations du service politique dès le début de ce journal. La politique, la pandémie et la polémique. Emmanuel Macron accusé par l'opposition de vouloir reporter les régionales après la présidentielle, ce qui permettrait à son camp de ne pas livrer bataille avant l'élection suprême. Et puis, c'est bien la première fois qu'on verra un produit chinois made in France, et non pas le contraire. Huawei prépare l'installation de son usine alsacienne, la seule au monde hors de Chine, pour le champion de la 5G.
Du made in France toujours. 18 Rafales vendues à la Grèce, c'est la première fois qu'il s'exporte en Europe. Et quelles conséquences géopolitiques avec la Turquie, notamment. Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, invité d'Europe Matin, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le confinement, c'est pas maintenant. Pas d'Emmanuel Macron à 20h au programme télé de votre semaine, alors que le monde scientifique et médical pousse pour un retour des restrictions façon novembre ou bien printemps, ou bien entre les deux, ou peut-être encore des vacances de février allongées. Les scénarios évoqués se multiplient. L'Élysée calme le jeu pour le moment.
Bonjour Michaël Darmon.
Bonjour.
Le chef du service politique d'Europe 1. Comment expliquer ce délai ?
Mais écoutez, tout d'abord, il y a un retard dans les chiffres sur les effets du couvre-feu. Ils n'arriveront qu'en fin de semaine. Et Emmanuel Macron, lui, veut prendre une décision sur des bases scientifiques parce que cette décision est différente des autres. On parle de troisième confinement. Mais en réalité, il s'agit en fait d'un premier confinement d'un genre nouveau, le confinement préventif, parce que les variants et leur propagation ont fait tout simplement exploser les références. Les scientifiques le disent au chef de l'État, il faut fermer avant que les chiffres n'explosent. Sauf que les données britanniques sur le variant, se fondent sur une période où tout le monde ne portait pas un masque en Angleterre. Donc, ça change l'analyse. On appelle ça un biais.
Pourtant, d'habitude, Michael, le processus est assez clair pour l'exécutif. Quand les chiffres sont mauvais, on ferme et puis on explique comment. C'est bien ça.
Eh oui, mais encore une fois, cette fois, c'est différent. La décision est beaucoup plus difficile à prendre. Est-ce qu'il faut laisser les écoles fermées, ouvertes plutôt ? Est-ce qu'il faut fermer les commerces ? Est-ce qu'il faut empêcher les voyages ? Et pendant ce temps-là, en coulisses, les partisans du confinement font le forcing parce qu'ils sont sensibles à l'opinion et qu'ils craignent aussi qu'un jour, la justice ne vienne les inquiéter. Cette pression qui se joue aussi dans les médias, il faut le savoir, agace beaucoup le chef de l'État. Donc, selon ses proches, le président se donne encore un week-end de réflexion avec toutes les données et il s'exprimera sans doute en début de semaine.
Merci Michaël Darmon.
On entendait tout à l'heure à 7h les inquiétudes de l'exécutif sur la lassitude des Français, ras-le-bol des restaurateurs, risque de désobéissance. En un mot, ce que dans les couloirs de l'Élysée, on appelle l'acceptabilité des mesures. Eh bien, regardez ce qui se passe à l'étranger. En Israël, la police a arrêté 13 personnes dimanche soir après des heurts liées au confinement. Au Liban, hier soir, affrontement, police, manifestants contre le couvre-feu, 30 blessés à Tripoli, selon la Croix-Rouge. Et plus près de nous, les Pays-Bas.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Vous êtes pour Europe 1 devant un commissariat de police attaqué hier soir à Rotterdam, l'une des villes où l'on a vécu des violences pour la deuxième nuit de suite, après la mise en place d'un couvre-feu.
Oui, un bureau de police qui est ce matin encore barricadé derrière de grandes planches en bois. Plusieurs fenêtres sont brisées, elles ont reçu des jets de pierre hier soir. Ce matin, le calme est revenu, les rues sont désertes ici. Mais dans le quartier où je me trouve, plusieurs magasins ont été pillés après les affrontements entre environ 200 personnes et la police après le couvre-feu instauré à partir de 21h. Des événements similaires ont eu lieu dans plusieurs autres villes des Pays-Bas, comme Amsterdam ou Bois-le-Duc. Selon le chef de la police hollandaise, plus de 150 casseurs au total ont été interpellés dans la soirée. C'est la troisième soirée d'émeutes aux Pays-Bas, des scènes totalement inhabituelles ici. C'est parti d'une manifestation rassemblant quelques centaines de personnes samedi à Amsterdam. Elles protestaient contre la mise en place du couvre-feu, le premier depuis la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas. Mais les jeunes qui affrontent la police n'ont pour le moment pas de véritables revendications politiques. Difficile à ce stade de savoir s'il s'agit d'un mouvement de colère limité à quelques quartiers difficiles ou alors les prémices d'une véritable révolte contre les restrictions mises en place par le gouvernement.
L'envoyé spécial d'Europe 1 à Rotterdam. Merci Isabelle Horry.
Et en France, s'il n'y a pas d'annonce présidentielle cette semaine, est-ce reculer pour mieux sauter ? Nous avons tous intégré qu'un confinement numéro 3 nous guettait. Alors, on n'en est pas à refaire les stocks de pâtes, mais on le voit, par exemple avec Lionel Gougelot pour Europe 1 à Lille, il y a tout de même, dans le fond de l'air, un esprit de préparation.
Le premier constat, c'est que la perspective de ce confinement dicte les priorités. Par exemple, pour les grands-parents, profiter des derniers jours avec les petits-enfants.
Les enfants sont sur Dunkerque, donc on va y aller demain et après-demain. Et la semaine d'après, je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller.
Parce que dans l'incertitude, c'est forcément l'angoisse de l'enfermement qui ressurgit.
Je vis chez mes parents, on va se retrouver encore à 4-5 dans un appartement où on va être là tout le temps, tous les jours. Au bout d'un moment, c'est pénible, quoi.
Alors, comme pour conjurer le sort, Victor maintient quand même son prochain week-end.
Là, j'ai pris des billets de train. Je pense qu'il faut continuer à faire des projets. Sinon on s'en sort pas.
Lucie, l'étudiante, est sur la même ligne, elle qui n'exclut pas quelques petites entorses à ce confinement.
Si on n'a pas un minimum de contact social, c'est absolument pas possible. Et je suis pas en train de parler des soirées à 40 ou 50 personnes. C'est de faire du sport, de rester en contact avec nos proches. Ça permet vraiment de garder les pieds sur terre.
Et puis il y a les fatalistes.
Le moral, il prend un coup pour tout le monde. Alors on est enfermé à sa maison, mais que voulez-vous faire d'autre ?
Qui accepte stoïque cette nouvelle épreuve ?
Moi, je vis au jour le jour. Je me plains pas. Je fais ce que le gouvernement dit et puis voilà.
Je ne cherche plus à savoir qui a raison, qui a tort. Ce sera comme ce sera. C'est de la résignation, mais de la résignation positive.
La résignation positive, en psychologie, ce serait une façon de trouver le bonheur dans une situation difficile. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
J'ajoute cette information. Une PME sur deux en France craint de ne pas pouvoir supporter un troisième confinement. Il s'agit des réponses, 2400 réponses au questionnaire mené par la Confédération des petites et moyennes entreprises, et une PME sur trois a le sentiment que son entreprise est sous perfusion de l'État.
C'est aujourd'hui que le Sénat examine le projet de loi qui reprogramme les élections régionales et départementales au mois de juin, initialement prévues en mars et repoussées évidemment à cause du Covid.
Des scrutins prévus donc à la veille de l'été, même s'il y aura une clause de revoyure pour tenir compte du niveau de l'épidémie à ce moment-là. Alors la question que beaucoup se posent dans la classe politique, et ils le disent à Aurélie Herbemont, allons-nous vraiment voter au mois de juin ?
Emmanuel Macron fera tout pour qu'on vote après la présidentielle, histoire d'éviter une déroute électorale. Cette accusation est récurrente dans l'opposition. Un dirigeant macroniste se veut pourtant rassurant. On est parti pour tenir les élections en juin. Pour dissiper les doutes, les présidents de région voudraient que l'exécutif sanctuarise dès aujourd'hui la date. C'est compliqué, confie-t-on au gouvernement. On ne peut pas dire le mardi, oui, on vote absolument en juin, et le lendemain, on reconfine. Problème, personne ne sait quelle sera la situation sanitaire au printemps. Si c'est vraiment catastrophique, on verra, admet un sénateur LR. Mais il faut se donner les moyens de tenir le calendrier. Le principal souci restant la campagne. Pour les régionales, le numérique et les médias, ça va, explique un conseiller ministériel. Mais beaucoup d'élus départementaux ne savent pas faire campagne sans serrer des mains et n'ont même pas de page Facebook. Bref, le feuilleton de l'organisation risque de durer jusqu'au 1er avril, date du rapport du conseil scientifique sur la tenue des élections.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
En bref, il y a aujourd'hui cette grève dans l'éducation nationale à un mois de la fin du Grenelle de l'éducation. Un tiers des enseignants du primaire ne travailleront pas, selon le syndicat SNUIPP. Et des appels à manifester ont lieu dans plusieurs villes, Paris, Lyon, Grenoble, pour la revalorisation des salaires.
Vous restez avec nous dans un instant. Des produits chinois fabriqués en France, Huawei et sa future usine près de Strasbourg, c'est le dossier d'Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
On peut le dire, l'annonce nous avait sidérés à l'époque. Le groupe chinois Huawei, leader mondial des technologies 5G, pas vraiment chouchouté par les autorités françaises pour le déploiement du réseau mobile dernier cri, avait choisi notre pays pour installer ce qui sera sa première et donc unique usine hors de Chine, précisément sur la commune de Brumath, près de Strasbourg.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
On va faire le point avec vous sur la situation de Huawei en France. D'abord, à quoi ressemblera cette usine ?
Eh bien, elle devrait ouvrir ses portes dans 2 ans avec 500 emplois à la clé. L'usine va produire du matériel pour les réseaux mobiles, des câbles, des boîtiers, notamment pour la 5G. Et depuis Brumath, Huawei desservira toute l'Europe, une belle opportunité pour les élus locaux. Claude Sturny, le président de l'agglomération d'Agno, balaye la polémique sur Huawei.
Il y a des entreprises dans plein de secteurs et on ne discute pas le bien fondé de l'implantation d'une usine d'armement ou d'une usine alimentaire. À un moment donné, c'est des emplois, on les veut pas, on en a besoin. Cette entreprise-là va créer de la valeur.
Et c'est un projet à 200 millions d'euros. Et à côté de ça, Huawei en France, c'est déjà 1 millier de salariés et 1 milliard d'euros d'achats à des entreprises locales.
Un projet chinois à 200 millions. Clément, pourquoi est-ce que Huawei a choisi la France pour investir ?
C'est un peu un choix par défaut, il faut le dire. Aux États-Unis, Huawei est banni. Idem au Royaume-Uni. En Allemagne, c'est pas beaucoup mieux. Mais en France, il y a juste une interdiction. Les opérateurs n'ont pas le droit d'utiliser du matériel Huawei dans leur réseau 5G. L'entreprise n'est donc pas bannie, loin de là. C'est du pragmatisme, car cette usine présente un réel intérêt pour la France. Huawei, c'est est le leader technologique sur la 5G. Ils ont 2 ans d'avance, reconnaît en off un spécialiste français des composants électroniques. Ce sont les meilleurs, ajoute un opérateur qui fait part de ses regrets, lui. L'Europe est en train de se fermer à Huawei et c'est dommage.
Ok, ils sont bons, mais est-ce qu'il faut se méfier de Huawei?
Pour les États-Unis, ce sont des espions de Pékin à cause d'une loi. Si le gouvernement chinois réclame un jour des informations, Huawei est obligé de s'exécuter et de tout transmettre. Alors en France, on n'a pas constaté encore une telle fuite de données. En revanche, le vrai problème avec Huawei, ce sont ses liens avec l'État chinois. Le fondateur et PDG Ren Zhengfei est un ancien cadre de l'armée populaire de Chine, membre du Parti communiste. Un lien trouble, selon Jean-François Dufour, président du cabinet DCA Chine Analyse.
Huawei n'est pas une entreprise d'État. Officiellement, c'est une entreprise détenue par ses salariés. Dans les faits, concrètement, c'est une entreprise qui dépend du soutien financier du gouvernement chinois. C'est-à-dire que ce qui a fait toute la possibilité d'ascension de Huawei, ce sont les énormes financements que lui ont accordé les banques publiques chinoises.
Et c'est cette dépendance, en fait, qui gêne les partenaires de Huawei, qui réclament plus de transparence dans la gouvernance, notamment. Et puis, il y a un autre sujet d'inquiétude. L'usine de Brumath est située dans une zone où sont implantés plusieurs sites militaires, notamment du renseignement de l'armée de terre. Alors selon nos informations, l'usine sera donc surveillée de très près. On le comprend, il y a beaucoup, beaucoup de zones d'ombre autour de Huawei encore aujourd'hui et l'entreprise en est bien consciente. Pour montrer patte blanche en France, elle s'alloue les services de lobbyistes, notamment les anciens ministres Jean-Louis Borloo et Jean-Marie Le Guen.
Enquête signée Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.